Avec Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
Et on retrouve notre invitée, Elena Mousset, qui était avec nous un petit peu plus tôt dans cette matinale. Bonjour, re-bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes,
Bonjour, vous êtes
chargée de projet en prévention santé. Vous travaillez à la Mutualité française à Strasbourg, donc dans le Grand Est. Alors peut-être que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est être chargée de projet en prévention santé et nous présenter aussi rapidement notre thématique qu'on va développer avec vous en détail, qui est le manger propre, Elena.
Alors effectivement, je suis chargée de prévention santé et dans le cadre de mes missions à la Mutualité. Donc la Mutualité, c'est la Fédération des Mutuelles Complémentaires Santé. Mmh. Donc ça représente 179 mutuelles et 2,6 millions de personnes protégées. Et nous intervenons à la fois sur la thématique du bien vieillir, de la alimentation, de la santé environnement, de la santé des aidants. Et moi spécifiquement, je suis référente santé environnement. Donc j'essaye de mettre en place des ateliers, des conférences, des stands pour informer les gens sur les polluants du quotidien. Mmh. Aussi des ateliers culinaires et des petits déjeuners santé en présence de diététiciennes bien souvent. Mmh. Et concernant le manger propre, c'est une thématique qui me tient à cœur. Nous avons effectivement beaucoup de questions et qui sont parfois restées sans réponse parce que c'est une thématique qui peut être anxiogène avec des informations souvent contradictoires qui circulent sur l'alimentation.
Eh bien, on va faire un petit peu le détail de tout cela durant cette heure sur Phare FM. Vous pouvez réagir et poser vos questions à notre spécialiste ce matin sur le +33 652 300 342. Ça se passe par SMS, sur l'application WhatsApp ou sur le répondeur Manger propre. Et pas manger proprement, Sandrine, hein, on répète. Eh bien, c'est notre thématique ce matin d'essayer de savoir ce qu'il y a dans nos assiettes, un petit peu ce qu'elles contiennent. Ça sera dans un instant.
Alors, Elena, vous nous expliquez pourquoi cette thématique vous intéresse. Ça tombe bien, elle nous intéresse aussi. C'est bien pour ça qu'on en parle avec vous. Et c'est vrai que, je le disais aussi, cette thématique, elle est incontournable. On assiste véritablement à une volonté grandissante du consommateur de savoir enfin ce qui se trouve dans son assiette. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça, finalement, on a l'impression, par exemple, que nos parents et nos grands-parents se prenaient moins la tête, passez-moi l'expression.
Bah effectivement, mais parce qu'ils étaient aussi moins confrontés aux traitements phytosanitaires, à l'apparition de beaucoup de produits chimiques sur le marché. Mmh. Et ils vivaient peut-être aussi beaucoup plus en adéquation avec les saisons. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on voit que dans un supermarché, on peut aujourd'hui trouver des fraises au mois de janvier et qu'il y a une demande pour ça. Donc c'est pour ça que c'est dans les rayons. Donc le consommateur a un vrai pouvoir d'agir.
Mais est-ce que c'est aussi, on parle de, donc justement des produits phytosanitaires, est-ce que ce ne sont pas les contrôles qui ont été renforcés, tous ces éléments aussi que l'on a mis en place qui permettent de voir que finalement, y a des choses qu'on n'arrivait pas à mesurer ou à voir avant qu'on voit aujourd'hui.
Alors avant-guerre, l'existence de produits phyto n'était pas. Mmh. C'est à partir des gaz oranges qui ont été utilisés pendant la guerre qu'on a créé les premiers traitements phyto. Mmh. Et effectivement, vous avez raison dans le sens où les contrôles se sont renforcés. Et qu'aujourd'hui, il y a aussi une liste de produits chimiques qui sont interdits sur à la mise sur le marché, mais qui sont remplacés par les industriels par d'autres produits qui ne sont pas encore décriés, mais c'est une question de temps parfois.
D'accord. Et d'après vous, tout ce qui est à l'arrivée donc, des produits, donc des grandes surfaces, des produits industriels, ça a joué beaucoup aussi sur cette évolution?
Alors ça a joué dans le sens où les gens ont pris moins le temps de cuisiner aussi à partir du travail des femmes qui est devenu plus prégnant aussi. Donc l'utilisation de produits transformés industriels a aussi posé un certain nombre de problèmes sur la santé des populations.
Mmh, donc moins de temps pour cuisiner, donc du coup aller sur des produits de facilité qui ne sont pas forcément tout le temps de qualité, c'est un petit peu ce que vous nous dites.
Oui, effectivement, parce qu'on trouve dans ces produits transformés, voire ultra transformés, des conservateurs, on trouve des acides gras saturés. On trouve souvent beaucoup de sucre et de sel pour donner du goût, qui sont des exhausteurs de goût, hein, et qui ne coûtent pas cher à l'industriel. Donc,
Finalement, la part du budget alimentation a complètement diminué par rapport à ce que ça pouvait être au début du XXe siècle.
Bah, c'est vrai qu'en 50 ans, on estime que la part du budget alimentaire des revenus d'un ménage a été divisée par deux. Alors, quand les personnes disent que les produits sont trop chers, etc., c'est que le budget est plutôt parti dans les loisirs ou dans le temps passé à l'extérieur de la maison.
On parlait tout à l'heure avec vous, Elena, de ce basculement, de l'intérêt en tout cas grandissant et la volonté du consommateur de savoir ce qu'il y a dans son assiette. Quand est-ce que c'est opéré finalement cet intérêt du consommateur à savoir ce qu'il avait dans son assiette?
Mais je crois que le consommateur, il a été ébranlé un petit peu par un certain nombre de grands scandales sanitaires qui ont été très médiatisés, notamment à partir des années 90. On peut faire référence au scandale de la vache folle.
Oui.
Et puis, dans les années 2000, on assiste à la grippe aviaire, aux histoires de lait maternel frelaté, des graines germées contaminées qui font la une de la presse. Et plus récemment, on a bien en tête la viande de cheval qui a été vendue pour du bœuf et qui se sont retrouvées dans des plats cuisinés.
Donc tout ça, pour vous, ça a été le basculement de se dire, ok, on nous dit qu'il y a quelque chose sur les étiquettes, hein, et finalement, on voit avec ces scandales que c'est plus vrai. Donc finalement, est-ce qu'on peut vraiment se fier dans ce qu'on mange, et ce qu'on nous dit est vraiment vrai? Donc c'est là ce basculement, il y a une défiance de la part du consommateur de ce qu'il achète et de savoir vraiment si c'est bon pour sa santé pour lui-même et pour sa famille.
C'est vrai que le consommateur est devenu méfiant et j'entends souvent autour de moi, dans les actions que je mets en place, que les gens me disent « je ne sais plus quoi manger, je ne sais plus quoi acheter, je ne sais plus quoi donner à mes enfants ». Il y a trop de choses à prendre en compte, il y a les pesticides, il y a la provenance des produits, est-ce que c'est local ou pas, le bien-être animal, les produits transformés… Voilà, donc c'est effectivement très, très anxiogène et parfois même contradictoire.
Alors, vous parlez aussi de confusion, on en parlait en antenne, avec ces messages qui sont parfois anxiogènes et même contradictoires. Vous voulez nous en dire un peu plus de ces confusions que peut faire le consommateur?
Il y a déjà peut-être une confusion entre intolérance alimentaire et nourriture saine. Et il y a un certain nombre de régimes qui apparaissent dans les magazines, notamment tout ce qui est sans gluten, sans lactose, vegan, végétarisme, crudivorisme, régime paléo, etc. Et je pense qu'un certain nombre de consommateurs, si on fait référence par exemple au gluten, pensent que le gluten va nuire à leur santé. Alors qu'effectivement, ça peut nuire à la santé de certaines personnes qui ont des allergies, des intolérances importantes, et où là, un régime spécifique doit être mis en place, hein, pour vraiment protéger leur santé. Mais en aucun cas, il est nécessaire d'exclure certains aliments du régime alimentaire d'une personne qui n'a pas de soucis digestifs.
Alors, moi, j'ai une question à vous poser, Elena, parce qu'on voit beaucoup de sites internet fleurir vraiment partout, qui nous disent pourquoi le sans gluten, c'est bon d'avoir une consommation sans gluten, c'est ce que vous nous disiez, etc. Comment on arrive à faire la part du vrai, du faux, de ces sites internet qui fleurissent pour nous dire il faut consommer tel ou tel, vous nous en parlez dans les magazines, etc. Comment on arrive à faire la part des choses exactement?
Déjà, il faut savoir que, effectivement, le gluten, donc c'est ce qui est contenu autour de la graine de certains céréales, notamment du blé, et qui peut être irritant, un petit peu comme la face grattante d'une éponge qu'on passerait en fait sur son intestin. Donc effectivement, ça peut être irritant, et notamment du fait que les blés ont été très transformés génétiquement par les agriculteurs lors de cette dernière décennie. Et donc, on se retrouve avec un blé qui est plus irritant et peut-être moins digeste que le blé de nos ancêtres. Donc, il y a des solutions à ça. Hein. C'est peut-être de se tourner vers le petit épeautre, par exemple, qui est aussi un dérivé du blé, mais qui ressemble beaucoup plus au blé qu'ont connu nos parents et nos grands-parents.
D'accord.
Alors justement, au niveau des solutions, on va détailler ça avec vous, bien sûr, dans cette émission. Quel choix on peut faire pour préserver sa santé? On va en parler aussi, bien sûr. Alors on voyait un petit peu avec vous tout à l'heure, Elena Mousset, vous êtes chargée de projet en prévention santé. On voyait avec vous tout à l'heure que non, il ne faut pas forcément complètement supprimer le gluten, parce que si on y est intolérant, bah oui, c'est normal, si on fait des allergies, on le supprime. Si on n'y est pas allergique, on ne le supprime pas. Mais tout de même, Nathanaël disait tout à l'heure qu'il y a quand même plein de sites, plein d'articles aussi qui fleurissent sur le « c'est mieux et vous verrez que vous vivrez mieux », entre guillemets, si vous éradiquez le gluten. Pourquoi est-ce qu'on ne le supprime pas purement et simplement? Si de toute façon, il déclenche des choses désagréables, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas tout sans gluten, Elena Mousset?
Alors déjà, il faut savoir que plus un produit va être transformé de manière industrielle et plus on a des chances d'y trouver du gluten. Parce que là aussi, ça va donner du poids, de la consistance, ça va permettre de lier des sauces, par exemple. Donc, c'est utilisé de manière massive. Donc, comme tout aliment de manière générale, il faut essayer d'en manger en quantité raisonnable et d'alterner avec des produits bruts, des fruits et des légumes frais, par exemple. Et je pense que quand on apprend à connaître son corps et les réactions de son corps, on peut aussi finalement se rendre compte qu'on peut se tourner vers d'autres produits tels que le riz ou le quinoa à la place des pâtes. On peut essayer des farines de maïs ou de châtaigne pour remplacer la farine de blé. On peut se tourner vers des aliments qu'on ne connaît pas et qui sont aussi pleins de vitamines, de légo-éléments, etc. Donc, soyons curieux et ne nous tournons pas toujours vers les mêmes produits.
Donc, on passe plus de temps finalement dans les supermarchés ou le marché hein, d'ailleurs, hein, pour essayer de plus choisir ces produits. Est-ce que cette problématique-là ne va pas se déplacer au fur et à mesure? Vous parlez de quinoa, vous parlez d'autres solutions qui, à force d'être industrialisées, va avoir aussi la même problématique du gluten. Est-ce qu'on n'arrive pas dans un cycle finalement où on va trouver une solution, on va l'industrialiser et on va revenir sur la même problématique? On va avoir peut-être dans quelques années à nouveau des scandales. Et c'est ce que pensent certaines personnes aussi, en disant moi j'ai plus confiance du tout même d'aller dans les supermarchés ou quoi que ce soit, parce que de toute façon il y aura scandale sanitaire sur scandale sanitaire.
Ouais, effectivement, après je pense que sans être alarmiste, il faut pouvoir se diriger vers des solutions plus locales. Peut-être si vous connaissez la ferme qui est pas très loin de chez vous, allez vous renseigner sur quels produits sont vendus là. Mutualiser aussi les achats. Aujourd'hui, on peut trouver dans certaines grandes villes des achats, des centrales d'achat en vrac, qui du coup, en vendant des produits déconditionnés, rendent accessibles des produits bio au plus grand nombre. Donc là aussi, ça peut être une piste.
Alors justement, on va continuer bien sûr à voir avec vous les pistes qui existent, car elles existent. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h, vous posez toutes vos questions d'ici 10h au 0033 652 300 342. On parle du manger propre.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning. Positif Morning.
Comment manger propre? Comment mieux manger? Cette thématique, elle est désormais, merci Nathanaël, désormais incontournable. Et c'est pour ça que notre invitée est avec nous, Elena Mousset, chargée de projet en prévention santé, qui travaille à la Mutualité française dans l'Est de la France, à Strasbourg. Et alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on est obligé, enfin en tout cas si ça nous interpelle bien sûr, de passer un peu plus de temps dans le supermarché par exemple, pour y regarder de plus près qu'est-ce qu'on achète, essayer de ne pas acheter n'importe quoi. C'est peut-être aussi la problématique que vous avez vous, de l'autre côté de la radio. Et alors avant qu'on continue sur les solutions qui existent pour mieux consommer, Elena Mousset, moi j'ai envie de vous poser une question comme ça très très cash si je puis dire. Comment lire une étiquette? Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous se posent la question.
Il faut Bac plus 18, hein, j'ai l'impression des fois. Il
faut en tout cas avoir beaucoup de temps devant soi.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Alors, il y a une chose très simple que vous pouvez faire, c'est déjà observer le nombre d'ingrédients qui est contenu dans votre produit. Mmh. Si vous avez un paquet de biscuits qui, a priori, devrait comprendre de la poudre de lait, de la farine, des œufs, et que vous avez une liste de 50 ingrédients, vous pouvez déjà vous douter que ce produit est à déconseiller. Mmh. Ensuite, il faut savoir que le premier ingrédient qui est cité sur la liste, c'est l'ingrédient le majoritaire qui constitue le produit. Et généralement, les quatre premiers ingrédients de l'étiquette constitue la majorité du produit. Il y a aussi une chose à laquelle il faut prêter attention, c'est tout ce qui est additif alimentaire. Donc parfois, on les trouve sous leur nom complet. Mmh. Parfois, on les trouve avec l'appellation E et le numéro selon que ce soit un exhausteur de goût, un conservateur, un colorant.
Et donc ça, il faut faire attention. On peut en consommer ça de ces additifs. C'est dangereux. C'est pas dangereux pour la santé.
Alors il y a des additifs dits naturels qui peuvent être inoffensifs, mais une grande partie des additifs qui sont utilisés par les industriels sont des cancérigènes probables. Donc c'est vraiment à éviter. Et si vous en voyez plus d'un sur la liste, c'est à bannir.
Alors comment on distingue un additif naturel d'un additif qui peut être éventuellement cancérigène?
Alors un additif naturel, ça peut être un colorant. La betterave est un colorant, par exemple. Donc additif, c'est simplement qu'on a fait un ajout de matière ou de substance en fait pour soit prolonger la durée de vie du produit ou pour le rendre plus attractif visuellement.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire attention de plus pour les étiquettes, Elena?
Alors il faut aussi, il y a une mention qui ressemble un petit peu assez étrangement à un logo bio qui est vert en fait. Hein, mm-hmm. Donc on peut le trouver sur certains sachets de salade pré-lavée. Hein. Et en fait, c'est un logo qui signifie que l'aliment a été irradié.
Ah oui.
Donc il y a eu des rayons qui sont passés sur le produit pour prolonger sa durée de vie, faire en sorte qu'il se tienne bien dans son sachet, parce que souvent quand on met des choses sous plastique, ça a un peu tendance à étouffer l'aliment. Donc voilà, ce logo à s'y méprendre, si on ne le connaît pas, on peut être induit en erreur. Et c'est là tout le pouvoir des industriels d'utiliser ce qu'on appelle le greenwashing pour rendre attractif leurs produits.
D'accord. J'ai une question, parce que là on parle on effleure finalement les sujets, etc. Comment le consommateur peut faire pour se renseigner sur ce qu'il y a sur une étiquette, parce que là on a abordé quelques éléments, mais comment il peut faire? Il y a des organismes comme le vôtre qui existent pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des magazines qui en parlent pour essayer d'en savoir un peu plus?
Alors vous avez les magazines de consommateurs tels que 60 millions de consommateurs qui régulièrement en fait passent au crible un certain nombre de produits. Donc, c'est des magazines auxquels vous pouvez vous fier. Il y a également des organismes tels que la Chambre de consommation qui existe en France notamment, où ce sont des regroupements de consommateurs et de professionnels qui peuvent donner des indications, notamment lorsque des produits sont rappelés, par exemple. Il y a également des organismes d'État qui sont là pour protéger le consommateur, pour faire des contrôles à la fois sur les questions d'hygiène, sanitaire, mais aussi sur la qualité et la provenance des produits.
Elena Mousset, vous restez avec nous jusqu'à 10h sur cette thématique du manger propre. Je voudrais juste revenir très rapidement sur ce logo dont il faut se méfier, qui veut dire que l'aliment a été irradié. En fait, c'est dans un petit rond vert. On a une espèce de petite fleur avec un rond vert et deux petites feuilles. Peut-être que ça vous parle de l'autre côté de la radio ou que ça vous parlera la prochaine fois, vous ferez vos courses. Elena, vous restez avec nous donc jusqu'à 10h. Vos questions maintenant. Et Nathanaël, on a évoqué un peu quelques scandales hein, tout à l'heure. On peut en évoquer un autre, peut-être un petit peu plus petit.
Alors, c'est pas encore un scandale pour l'instant.
C'est pas encore
en tout cas,
un scandale.
On en parle beaucoup.
En tout cas, c'est un tournable.
Exactement, on parle beaucoup du sucre en ce moment, Elena, du danger du sucre. Le sucre est présent partout. Il en est quoi exactement sur cette problématique du sucre? Est-ce que c'est vrai? Il y en a trop? On en consomme trop?
Effectivement, quand on voit la quantité de sucre qu'on consomme aujourd'hui par rapport à l'époque de nos grands-parents, on se rend compte qu'on a triplé, voire quadruplé notre consommation de sucre.
Ah oui.
Et que par rapport aux recommandations de l'OMS, par exemple, on est bien au-delà de ce qui est préconisé. Et c'est vrai que le problème, au-delà du diabète, des problèmes de caries, des problèmes dentaires, etc., c'est que ça peut générer, notamment chez les enfants, des problèmes d'hyperactivité. Mmh. Et d'ailleurs, c'est marqué sur certains packaging de biscuits, etc. Il y a une mention qui dit que ça peut provoquer ce type de trouble. Donc ça va générer en fait des problèmes de concentration, de mémoire et en grande quantité, on peut aller vers des maladies cardiovasculaires, voire certains types de cancers.
Alors on parle de sucre comme étant addictif, hein, autant que certaines drogues, et donc c'est pour ça qu'on le retrouve dans beaucoup d'aliments. Donc ça fait partie des choses dont il faut être vraiment sensible quand on regarde les étiquettes, c'est de voir s'il contient du sucre, et s'il en contient, du coup de choisir un autre produit. C'est ça la solution, Elena ?
Bah effectivement, on peut se fier aux étiquettes. Après, le problème, c'est qu'on en trouve dans tout type d'aliments, même des aliments qui sont a priori des aliments salés, type barquette de soupe, enfin briques de soupe industrielle, que ce soit dans des cordons bleus, dans des plats préparés, etc. Parce qu'une fois de plus, ça ne coûte pas cher aux fabricants, ça donne du poids et ça rend surtout le consommateur addict et ça lui donne envie de revenir vers le produit. Mmh. Donc ça peut ouvrir l'appétit.
Alors justement, certains consommateurs, pour éviter cela, peuvent se tourner vers des choses où il y a écrit que c'est light, par exemple. C'était une appellation qu'on voyait quand même pas mal, peut-être un peu moins maintenant, mais on peut se tourner aussi vers du zéro sucre ajouté, etc. etc. Est-ce que c'est mieux de se tourner vers des produits portant ce genre d'appellation, Elena ?
Alors, il y a beaucoup, effectivement, de dérivés du sucre, ce qu'on appelle communément les faux sucres. Je pense, par exemple, au sirop de maïs, qui est très riche en fructose. Ce sont des sucres qui, en fait, sont encore plus délétères pour la santé que le sucre classique. Donc, plus un sucre va être raffiné, transformé, etc., plus il va passer par des procédés chimiques avant d'arriver dans nos assiettes, et moins il va être facilement assimilé par le corps. Et contrairement à n'importe quel sucre classique qu'on absorberait, le corps va avoir le message en fait d'une consommation de sucre, donc va commencer à réagir pour l'absorber et le métaboliser. Mmh. Et en fait, ça va être un leurre, ça va être un effet trompeur, et donc le corps en fait va être perdu par rapport à ça. Et je pense notamment à la boisson sucrée que tout le monde connaît,
gazeuse.
La boisson gazeuse. voilà. Si on consomme du soda à tous les repas, on va avoir un phénomène d'accoutumance qui va s'opérer. On va avoir tendance à en consommer encore plus. Et à aller dans le reste de la journée, à aller vers d'autres produits sucrés, parce qu'effectivement, ça va créer en fait des pics d'insuline. Mmh. Et au moment où ce pic va baisser, on va avoir un coup de mou, on va avoir une fatigue qui va apparaître. Et l'envie d'aller vers un produit sucré pour retrouver son énergie.
On termine avec, bien sûr, ce qui est incontournable quand on parle de manger propre, c'est le bio. Est-ce que c'est mieux de manger bio ou c'est uniquement, comme certains l'affirment, un argument marketing ?
Alors déjà, il faut savoir, entre guillemets, quel bio. Qu'est-ce que ça veut dire bio ? Donc, il faut revenir sur la question des labels. Mmh. Donc, vous avez tout un tas de labels qui existent dans l'industrie agroalimentaire. Et il y a ce qu'on appelle les vrais et les faux labels, c'est-à-dire les certifications fiables en alimentation. En France, ça va être AB. Le logo européen, ça va être la petite feuille. Donc, si vous voyez ces logos, ça veut dire qu'effectivement, le produit est passé par un organisme de certification et qu'il est réellement bio. Tout ce que vous achetez au marché, par exemple, ne vous donne pas forcément une garantie sur le fait que le produit soit bio. Idem, si vous achetez une production locale du paysan qui a le champ à côté de chez vous, ça ne vous donne pas cette garantie-là non plus. Donc là aussi, il faut déjà savoir comment repérer les produits qui sont réellement bio.
Alors quand vous parlez de garantie, pardon, excusez-moi, oui. J'ai juste une petite question. Quand on parle de garantie bio, ça donne quelle garantie ? On commence à voir dans certains cas aussi des sortes de mini-scandales sur certains produits bio. Quelle garantie ça donne la certification bio ?
Alors a priori, il y a tout un tas de traitements phyto qui sont interdits en agriculture biologique. Donc il y a certains traitements qui sont autorisés parce qu'ils sont considérés comme relativement inoffensifs pour les sols et pour notre santé. Mais ça vous donne déjà une indication sur un nombre moindre de traitements qui a été opéré sur le produit. Mmh.
D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose avant que je coupe, du coup?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est un cercle vertueux. Hein, si le consommateur a une demande de produits plus respectueux de sa santé, des sols et de la planète, l'offre va être plus grande. Mmh. Et c'est vrai que quand on regarde les rayons de supermarché aujourd'hui par rapport aux rayons il y a quelques années, on trouve quand même beaucoup plus facilement des produits bio. Donc là, vous allez me dire que la conséquence de tout ça, c'est que les industriels, les paysans peuvent être tentés d'accroître leur rendement et donc de retourner vers des produits qui vont un petit peu booster les sols et la pousse. Mais j'ai envie de penser qu'on peut encore faire confiance à ces labels-là. Et si vous avez la chance d'avoir autour de vous des fermes où vous connaissez en fait les producteurs et qui vous donnent la garantie de n'utiliser pas ou peu de traitements, allez-y. Parce qu'effectivement, une certification, c'est coûteux. Et certains petits producteurs n'ont pas forcément les moyens d'avoir cette certification. Donc, ce qui est le plus à privilégier, c'est de se tourner vers le local.
Alors rapidement, Elena, on a une question auditrice de Laetitia. Est-ce que vous avez une liste qui regroupe les conservateurs ou additifs à éviter ?
Alors, vous pouvez aller sur le site internet de UFC Que Choisir. Donc, j'en parlais tout à l'heure, de 60 millions de consommateurs. Donc, UFC Que Choisir, c'est un petit peu le deuxième magazine de consommateurs le plus connu qui passe effectivement au crible un certain nombre d'aliments. Donc, vous pouvez aller sur leur site.
Alors, autre chose aussi, vous organisez, vous, des ateliers pour essayer de mieux comprendre ces étiquettes. Est-ce qu'il est possible de nous dire ce qu'il en est ? Quand est-ce qu'auront lieu ces ateliers ? Et nous renvoyer peut-être sur votre site internet.
Alors cette semaine, par exemple, on est sur un quartier prioritaire de la ville de Strasbourg qui s'appelle le quartier du Neuf, et on propose des animations surtout pour les familles, sachant que c'est dans la petite enfance qu'on construit aussi son capital et qu'on accumule peut-être le plus de polluants dans son corps. Donc on essaye vraiment d'aller vers les familles, vers les enfants, pour les rendre attentifs aux produits qu'ils utilisent au quotidien, à favoriser les temps d'échange et surtout à proposer des solutions et des alternatives, donc via des ateliers culinaires, via le choix de produits bruts qui sont à privilégier. Et cet après-midi, par exemple, nous organisons un spectacle qui est un conte culinaire où une conteuse va préparer une soupe en direct avec les enfants. Et c'est un spectacle qui est très interactif, qui démarre à 15h cet après-midi si vous êtes dans les parages.
Merci beaucoup, Elena Mousset. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être aussi le site internet pour retrouver les informations, en tout cas en savoir plus sur ce que vous faites?
Tout à fait, vous pouvez aller sur le site qui est grandest.mutualité.fr ou également sur notre page Facebook où nous mettons en ligne les photos de nos actions et les événements à venir.
Et alors, si on devait résumer en une phrase l'interview qu'on a passée, donc du coup avec vous, Elena Mousset, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tout ce que vous nous avez dit? Alors tout, j'imagine, mais en une phrase ou deux?
En une phrase et en 50 secondes.
Alors, n'oubliez pas le plaisir, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que l'alimentation, c'est aussi un héritage culturel, familial, et qu'à trop vouloir contrôler ce qu'on mange, on en oublie parfois de prendre du plaisir, donc... Si vous vous faites plaisir, je pense que vous aurez tendance naturellement à aller vers des aliments plus vivants et plus respectueux de votre corps, et que vous saurez vous faire plaisir en évitant tout le marketing, le poids du marketing autour de vous.
Mmh. Eh bien, on vous invite en tout cas à réécouter cette interview en replay à partir de cet après-midi et de le faire savoir autour de vous. Merci beaucoup, Elena.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous.
Et Sandrine, on se retrouve demain à partir de 6h. Passez une excellente journée à l'écoute de Phare FM.